J'aimerais que nous lisions ensemble, pour ce temps de méditation de la parole de Dieu, les psaumes, les versets 5, 6, 7 du psaume 120 et le psaume 121. Je ne sais pas si vous pouvez l'afficher. Psaume 120, versets 5, 6 et 7 et le psaume 121. J'attends que... C'est possible ? C'est bon. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, de demeurer parmi les tentes de Kédar. Trop longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, eux sont pour la guerre. Et pour le psaume 121... Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. Amen. J'avais le désir ce matin de vous entretenir de 15 psaumes. Donc on est là pour à peu près 2 heures, encore. Non, rassurez-vous, on parcourra le psaume, les quelques versets du psaume 120 et le psaume 121. J'avais envie de partager avec vous ces psaumes que l'on appelle les psaumes des degrés ou des montées. Alors, c'est 15 psaumes qui parlent en fait d'une marche spirituelle vers Dieu. C'est psaume des degrés dans certaines Bibles, si vous avez... L'introduction, il y a là une référence aux escaliers qui montaient sur le parvis du temple et pendant lesquels, pendant les fêtes importantes, on lisait à chaque degré, à chaque marche, en fait, un de ces psaumes. Et puis, la version qui est la plus connue en Israël, c'est en fait des psaumes de pèlerinage. Ce sont les psaumes que le pèlerin lisait lorsqu'il montait 3 fois par an, s'il avait la possibilité de le faire, à Jérusalem lors des fêtes de Pâques, de Pentecôte ou de Shavuot, et puis de des fêtes des cabanes, Soukhot. Et en fait, pendant le voyage, les Juifs qui se mettaient en route récitaient ces 15 psaumes. Alors, j'aime bien cette notion de pèlerinage ou de randonnée. On avait un ami qui est décédé il y a quelques années, qui s'appelait Maxime. J'ai de lui un livre qui s'appelle « Les randonnées bibliques » de Nicole, je ne sais plus son prénom, mais un pasteur évangélique, et qui parle des randonnées bibliques, se mettre en route, se mettre en marche, partir en randonnée avec le Seigneur. Eh bien, ces 15 psaumes des montées, c'était les 15 psaumes que l'on lisait, que l'on méditait lorsqu'on montait vers Jérusalem. Alors, je veux dire, est-ce que nous sommes les uns et les autres des pèlerins ? Est-ce que nous sommes véritablement dans une démarche ou dans une marche avec Dieu dans notre vie ? Qui est-ce qui est randonneur et marcheur ? Spirituellement. Alors, être pèlerin, ça peut se concevoir comme un pèlerinage pour ceux qui, géographiquement, partaient de là où ils habitaient dans tout Israël pour aller jusqu'à Jérusalem. On peut penser à une randonnée géographique. Et quand je regarde notre assemblée, je me dis, il y en a qui viennent de loin. Hein ? Quand je regarde tous ceux qui sont là, je regarde Meshuaï, je regarde devant Fanny, je regarde Antoine qui est là et d'autres, eh bien, il y en a qui viennent de très très loin pour arriver dans ce lieu-là. Moi, 400 km depuis la Normandie. d'autres de beaucoup plus loin. Est-ce que nous sommes des pèlerins ou des personnes en marche dans notre vie de manière géographique? Mais quand je me dis que nous sommes là ce matin, ce n'est pas tant une démarche géographique qui nous a amenés ici, des extrémités de la terre pour certains ou certaines, jusque dans ce lieu, mais c'est davantage une marche spirituelle qui fait que, entre guillemets, le hasard fait que nous sommes dans ce lieu ce matin. Comment Dieu nous a conduits au fil des années pour que ce matin, nous soyons là rassemblés tous ensemble. Regardez votre voisin et votre voisine. Vous savez quoi? C'est un miracle d'être assis à côté de lui ou d'elle. Même si vous êtes mariés, c'est un miracle que vos chemins se soient rencontrés et que ce matin, Dieu vous ait amené ici. Ce n'est pas un miracle de voyage géographique, c'est un miracle spirituel dans votre vie avec Dieu qui a fait que pas après pas, ce matin, en ce temps-là, nous soyons rassemblés ensemble. C'est un effet de la grâce et de la pensée de Dieu. Regardez à droite, regardez à gauche, regardez derrière, regardez devant. Celui ou celle qui est à côté de vous a été conduit par Dieu tout au fil de ces jours, de ces mois, de ces années, de ces décennies, pour que vous soyez là, ensemble. Alors, les psaumes des montées disent plus particulièrement quelque chose d'une marche spirituelle que d'une marche géographique, même si pour les Juifs, c'était partir de là où ils habitaient pour aller à Jérusalem. Mais quand on lit les 15 psaumes des montées, on assiste à un voyage spirituel. Est-ce que vous êtes des pèlerins? Est-ce que vous êtes des pèlerins dans votre vie, intérieurement, spirituellement? Quand on regarde l'Église, on peut se poser la question. Et si on pose la question, on peut avoir une réponse du genre « Ah ben oui, moi je suis pèlerin, le dimanche de 10h15 à 12h30. Et puis je me repose le restant de la semaine, parce qu'un pèlerinage le dimanche matin, c'est fatigant. » Mais est-ce que spirituellement, je suis un homme et une femme en marche avec Dieu? Il y a en 1621 un homme qui est né en Angleterre, donc juste à la naissance de la réforme, 5-6 ans après la réforme de Luther, non plutôt un siècle après, il s'appelait John Bunyan et il a écrit un livre qui se trouvait dans la librairie ici et qui s'appelle « Le voyage du pèlerin ». Alors ça, c'est la version bande dessinée. C'est pour ceux qui ont du mal à lire. Hein ? Le voyage du pèlerin, c'est un livre que John Bunyan, qui était réformateur anglais au XVIIe siècle, a écrit. Mais il l'a écrit dans des circonstances assez particulières. Vous savez où il l'a écrit ? En prison. Il était pasteur, baptiste, et il a été emprisonné à cause de son témoignage, de sa foi, qui ne convenait pas au roi d'Angleterre. Et donc, il a été mis en prison, et en prison, il a imaginé ce que c'était que d'être chrétien. Et le chrétien, disait-il, alors d'ailleurs, le héros s'appelle Chrétien, c'est un homme ordinaire qui habite la ville de la destruction, et un jour, il se lance dans un long périple en quête de la cité céleste. En chemin, il devra traverser la sombre vallée de l'humiliation, l'effroyable vallée de l'ombre de la mort. Il devra combattre de puissantes et sinistres créatures telles qu'Apollon et Belzébuth. Il devra aussi affronter ses doutes et ses peurs les plus profondes. Aucun mérite, je suis en train de lire la quatrième de couverture. Ce livre-là, il a une particularité, vous savez laquelle? Dans l'histoire jusqu'à l'aube du XXe siècle, le premier livre le plus diffusé au monde, c'était la Bible. La Bible, jusqu'à aujourd'hui, je pense, est encore le livre le plus diffusé dans l'histoire des hommes. Le deuxième livre qui a été le plus diffusé jusqu'à l'aube du XXe siècle s'appelait « L'imitation de Jésus-Christ » de Thomas à Kempis. C'était un petit ouvrage qui a été écrit pour expliquer aux chrétiens comment devenir imitateur de Jésus. Ça, c'est un livre. Ça a été un livre de méditation pendant des siècles pour les chrétiens de tous les temps. Et jusqu'à l'aube du XXe siècle, ça a été le livre le plus vendu après la Bible. Le troisième livre le plus vendu jusqu'à aujourd'hui, c'est Le Voyage du Pèlerin de John Bunyan. Alors, pas en bande dessinée, hein, mais écrit avec des lettres, des mots, et sur du papier. Et là, vous avez la version Le Voyage du Pèlerin. Pourquoi ? Parce que John Bunyan considérait que, véritablement, chaque chrétien, chaque croyant, était un homme ou une femme qui se mettait en marche pour aller vers Dieu. Et les 15 psaumes des montées, du 120 au 134, sont des psaumes qui parlent de ce voyage, pas seulement vers Jérusalem pour les pèlerins juifs, mais des croyants dans leur vie, du moment où ils décident de rencontrer Dieu et d'être au bénéfice de sa grâce, jusqu'au moment où ils se mettent à son service et ils vivent avec lui au milieu du peuple, qui est le peuple de Dieu. Alors j'ai commencé cette lecture par le psaume 120, avec les quelques versets qui disaient « Malheureux que je suis, j'habite au mauvais endroit, quel malheur pour moi de séjourner et d'être immigré à Méchèque, de demeurer parmi les tentes de Kédar. » Le verset 2, c'est « Ça doit changer », et le verset 3, c'est « Je ne suis pas comme le monde ». En fait, si j'ai lu ces trois versets, parce qu'ils sont vraiment, je dirais, le commencement de la marche avec Dieu. Au psaume 120, verset 1, c'est le croyant qui pose cette réalité « Je ne suis pas au bon endroit ». Dans ma vie, je ne suis pas au bon endroit. Alors, ce n'est pas simplement un endroit géographique. Hein. Je ne vais pas inviter ceux qui ne sont pas de Kévin de venir habiter et chercher un logement à Kévin, parce qu'ils ne seraient pas au bon endroit. Non, ce n'est pas ça. C'est dans ma vie, dans mon être intérieur, dans ce que je vis actuellement, moi, en tant qu'individu, en tant qu'homme ou femme, je ne suis pas à ma place. Et cela, c'est le commencement de l'interrogation de l'individu qui veut aller vers Dieu et qui se dit « Je ne suis pas au bon endroit. Donc, je veux retrouver ma place. Et ma place, c'est ma place aux yeux de Dieu. » J'ai entendu une prière ce matin à laquelle j'adhère à 200%. Hein ? Parfois, on considère que ce que nous sommes répond ou correspond au regard que nous portons sur nous-mêmes, sur nos vies, sur ce que nous sommes avec nos qualités, nos défauts, et parfois plus nos défauts que nos qualités. Et ça, c'est l'œuvre de l'adversaire que de vouloir attirer nos regards sur ce qui n'est pas bon en nous, sans nous proposer d'autres alternatives. Or, en Christ, notre Dieu nous propose de quitter ces lieux de mort, ces lieux de désespérance, afin que nous nous mettions en marche vers la cité céleste. En Jésus-Christ, il y a une espérance. Oui, à condition que j'examine où j'habite, ce que je suis, ce que je pense de moi-même, et que l'adversaire a beau jeu de vouloir maintenir dans ma vie. Tu es comme cela, comme cela, comme cela. Et on croule sous un regard négatif, sous un sentiment de culpabilité, de honte. Alors que Dieu dit, tu es suffisamment précieux pour que j'aie donné mon Fils pour toi. C'est cela ta valeur. Alors, la première chose au psaume 120, c'est de dire, je ne suis pas au bon endroit. Alors ce matin, peut-être, pouvez-vous vous dire, vous aussi, cela. Je ne suis pas au bon endroit, c'est-à-dire, je ne suis pas dans la bonne position qui est celle que Dieu veut pour moi. Il a pour moi des desseins bienveillants. Il a pour moi un amour inaltérable. Il a pour moi une pensée qui m'échappe. Je ne suis pas au bon endroit si je pense le contraire. Alors, le croyant se met en marche. Et ce que j'aime dans le verset 2, c'est « ça doit changer ». Ça doit changer. Trop longtemps, je suis demeuré avec ceux qui détestent la paix, le shalom. C'est-à-dire, trop longtemps, j'ai été participant de ce regard négatif que porte le monde, cette tristesse de la pensée sur l'être humain. Trop longtemps, je suis resté auprès de ceux qui détestent la paix. Voilà, je veux maintenant recevoir la paix. Bien plus, au verset 3, le psalmiste, c'est-à-dire David, dira « Je suis différent du monde ». Est-ce que vous êtes différent du monde ? Je l'espère. En tout cas, malgré mes imperfections, et j'en ai, comme je dis toujours, demandez à ma femme, eh bien, malgré tout, je suis différent du monde parce que je suis pour la paix. Et si les autres, eux, sont pour la guerre, je suis pour la paix, c'est-à-dire la paix de Christ en moi et autour de moi. Alléluia. Alors, le psaume 120, c'est le démarrage de cette marche. Si on cherche à classer ces 15 psaumes en psaumes thématiques avec des thèmes différents, on peut les classer 3 par 3. Les 3 premiers, 120, 122, c'est le début de la marche, parce qu'il faut bien commencer à marcher. Mais oui, regardez sur les genoux d'Hervé, il y a son petit garçon Théo. Vous vous rappelez, il y a un an, ou il y a deux ans, trois... Il a quel âge maintenant? Ah ben non, 4 ans. Il y a 3 ans, bah, il hésitait à marcher. Il hésitait, mais aujourd'hui, il galope. Et c'est un vrai petit garçon maintenant. Et on va voir Clément dans quelques mois qui commence aussi à se lever, à se dresser. 120 à 121, les psaumes sont le début de la marche. Alors le début, il commence par un accessit obligatoire. C'est le salut et la libération de la mort, de la tribulation et du péché. Ça, c'est le psaume 120. Le psaume 121, c'est le salut et la libération du danger. Ah ouais. Être libéré du danger du péché, de la mort, de ce qui nous habite. Être libéré de cela, c'est le psaume 121. Le psaume 122, c'est être dans le salut et la libération du chagrin. Ah, est-ce qu'il y a parmi nous des frères, des sœurs qui sont dans le chagrin? Alors, le début de la marche, c'est « Je veux être libéré du chagrin ». Et vous savez, le chagrin, c'est quelque chose qui est comme, je dirais, la dépression, quelque chose qui vient miner, qui vient saper la joie et la paix de Dieu. Alors, psaume 120 à 122, c'est le début de la marche. Ah, en ce moment, depuis 3 jours, je crois, on est le 3 ou le 4 ? Le 4. Depuis 4 jours, certains d'entre vous, ou peut-être vos enfants, ouvrent des calendriers de l'Avent. Puis derrière les portes, qu'est-ce qu'il y a? Des versets bibliques, bien évidemment. Non? Non, peut-être des chocolats. Alors. Et si vous êtes chanceux et que c'est un calendrier de l'Avent suisse, vous avez les meilleurs des chocolats. Bon. Moi, je me disais, et si on faisait un calendrier de l'Avent, au moins pendant 15 jours, en lisant un psaume démonté chaque jour? Un psaume démonté chaque jour. Ça serait pas mal, ça. Pour aller du départ, du début de la marche, jusqu'à la gloire qui remplit nos vies, parce que nous sommes avec Dieu. Moi, je vous proposerais bien ça. Les trois psaumes, 123, 124, 125, c'est « Dans quelles conditions je marche ?» En sachant que ma marche, elle est rendue possible par Dieu. Alors le psaume 123 dit ben, « Je peux marcher à cause de sa grâce. » Par grâce, je ne mérite rien. Aussi parfait que je sois, enfin je parle de moi là, je suis quand même sauvé par grâce. Je ne sais pas vous, mais ce qui rend possible ma marche, c'est la grâce de Dieu sur ma vie. Alléluia. La deuxième chose, le psaume 124, c'est je suis sauvé, je peux marcher en bonne condition à cause de la fidélité de Dieu. Et puis le psaume 125, j'ai les conditions de cette marche, c'est que je suis dans sa protection. J'ai fait plein de petits papiers comme ça pour vous donner les thématiques de tous les psaumes démontés et de ces catégories. Si vous voulez, vous pouvez en prendre un plutôt que de noter. Et puis, vous, en relisant éventuellement en calendrier de l'Avent les 15 psaumes, vous pouvez dire, ah tiens, là je suis au 123-125, bah, le psaume 123 ça va être la grâce, le 124 la fidélité, le 125 sa protection. Ça ne fait pas du bien ça? Ça fait peut-être encore plus de bien qu'un bon chocolat, même suisse. Lire l'Écriture qui nous parle de la fidélité, de la grâce, de la protection de Dieu. Le psaume 126 à 128, c'est « Comment je vais être affermi dans ma marche ?» Ah ouais, parce que marcher, c'est fatigant. Moi, j'ai découvert ça dans les années 80 grâce à Francine, parce qu'on allait en vacances auprès de ses parents du côté du Jura, et j'ai découvert ce que ça voulait dire que de faire de la randonnée et marcher. Mais je marchais pendant des heures, parfois, surtout parce que je me perdais, donc ça rallongeait ma marche. J'ai fait la plus longue, je crois que c'est 8 heures. Je m'étais bien planté. Mais il faut être affermi dans sa marche. Alors, les psaumes 126, 127, 128, c'est l'affermissement dans notre marche parce que le Seigneur renouvelle nos forces pendant la marche. On n'est pas plus fatigué parce qu'on marche avec Dieu. Il nous renouvelle véritablement nos forces. Alors, le 126, c'est parce qu'il nous conduit. Le GPS avant l'heure. Dieu nous conduit. Est-ce que tu as cette conscience que Dieu te conduit ? Si tu as des doutes, si tu as des craintes, des peurs qui sont liées à l'incertitude de la marche que tu as, des choix que tu as à faire avec Dieu, lis le psaume 126, psaume des montées. Je pense que les Juifs qui montaient à Jérusalem, ils n'avaient pas des panneaux indicateurs qui disaient « tournez à droite, tournez à gauche » ou la voix suave d'une dame qui dit « dans 100 mètres, tournez à droite ». Je déteste ça, moi, une femme qui me dit ce que je dois faire. Mais bon, voilà, on se soumet. Quoi ? J'ai mis la voix d'un homme. Hein. Il bâtit, psaume 27. Comment il affermit dans notre marche ? Ben, il nous affermit. Il bâtit en nous la personne de Christ. Il augmente notre foi. Il chasse les peurs, les craintes. Il construit l'être que nous sommes appelés à devenir. Amen. C'est comme cela qu'il nous a fermis dans la marche. Et puis le psaume 128, c'est « Il me bénit pendant la marche ». Ce n'est pas quand je suis arrivé. Pendant que je marche, il me bénit au fur et à mesure. C'est ça qui me permet d'être affermi et de continuer à avancer. Un jour, j'étais dans le Jura, je faisais une randonnée. Et je marchais depuis au moins 3 heures. J'étais avec ma chienne et je me réjouissais. Il faisait un soleil merveilleux dans le Jura. Et je marchais depuis 3 heures. Puis j'ai eu la pensée tout à coup. Je me suis dit, c'est dommage parce que je marche depuis 3 heures. On me dit que et j'avais croisé personne. Souvent, j'allais dans des endroits où il n'y avait pas d'autres randonneurs. Et j'aimais ça. Et je me disais, mais... c'est dommage, normalement il y a des animaux dans la forêt, etc. J'en ai pas vu un seul. C'est triste, moi j'aimerais bien voir un animal comme cela croiser sa route, etc. À l'instant où je pensais ça, je crois, il y a eu un écart de quelques secondes, j'étais dans une forêt, à l'instant où je pense ça, quelques secondes après, à 4-5 mètres de moi, une biche était couchée dans les fougères, m'entendant arriver à 4-5 mètres. Elle se lève, elle me regarde, elle saute et elle disparaît. Vous savez quoi ? Pour moi, c'était une bénédiction de Dieu. Dieu, au moment où je pensais cela, a placé sur ma route un animal pour me montrer la beauté de sa création. Alléluia. Il me bénit. Est-ce que vous êtes béni en marchant ou bien est-ce que vous dites, quand je serai arrivé, il me bénira ? Non, c'est pendant la marche. Il me bénit. Le psaume 128, c'est le psaume de la bénédiction qui affermit ma marche et renouvelle mes forces et ma foi. Les psaumes 129 à 131, c'est... Ah, ça, c'est une partie intéressante. C'est ce qu'on qualifie des psaumes des montées qui permettent la réflexion pendant la marche. Et oui, marcher, ça permet de réfléchir. C'est pour ça que je fais de la randonnée tout seul, pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui me parle à l'oreille droite, à l'oreille gauche, enfin surtout à l'oreille gauche maintenant. Donc c'est pour pouvoir méditer, réfléchir, laisser là aussi le Saint-Esprit. Je sais que Michel, Catherine ont cette démarche-là aussi, de marcher et de se laisser porter non seulement par la marche, mais par la relation avec Dieu. Est-ce que votre marche avec Dieu... c'est une marche pendant laquelle il vous parle et vous lui laissez la possibilité de vous parler. Il n'y a rien de plus pénible quand on fait de la randonnée d'avoir quelqu'un qui passe une heure à vous parler à l'oreille. Vous savez, quelqu'un disait récemment, le meilleur ami qui soit, c'est celui avec lequel on peut être sans avoir besoin de parler. Mais si on peut marcher et laisser simplement nos pensées se connecter à Dieu, eh bien, c'est ce que Dieu fait. Et le psaume 129, c'est des réflexions concernant les blessures de la vie. Pouvoir laisser nos pensées porter les blessures de notre vie, ce que nous avons au plus profond de nous. Et nous sommes tous des êtres, des hommes et des femmes qui avons été blessés dans nos parcours de vie. Est-ce qu'on peut, en marchant avec Dieu, porter ces choses et laisser la pensée de Dieu venir aussi en nous, réfléchir sur ce que Dieu fait par rapport à nos blessures. Le psaume 130, c'est par rapport au péché, parce que nous sommes pécheurs. Même si le Père nous voit au travers du Christ, nous sommes encore pécheurs dans notre manière d'être, de faire, d'agir. Eh bien, la marche avec Dieu, dans le psaume 130, c'est réfléchir là aussi à la place du péché dans notre vie. Comment s'en libérer? Comment vivre autrement? Quelle est la pensée de Dieu dans notre existence pour nous libérer de cela? Et puis, la troisième partie, c'est la récompense. Alors, il y a la conscience de notre faiblesse aussi dans cette partie-là, le psaume 131. Avoir conscience de ses faiblesses. Ah, ça, c'est uniquement pour les femmes, parce que les hommes, ils n'ont pas de faiblesse, vous savez bien. On est fort, on est solide, ou alors on a la volonté de ne pas reconnaître les faiblesses qui nous habitent. Ça, c'est une force des femmes. C'est une force des femmes, véritablement, je le crois, cette capacité à avoir conscience de ses faiblesses. Mais les Adams, plus dur, hein ? Il faut qu'on soit fort. Avoir conscience de notre faiblesse et être dans l'humilité, c'est aussi une réflexion qui est liée à notre marche. Et puis les trois derniers psaumes, 132, 133, 134, ça c'est... Alors, je suis sûr que les hommes vont dire, bon, la conscience de notre faiblesse, on va peut-être sauter ce psaume-là. Hein, on va passer directement à la... Les trois derniers psaumes, c'est la récompense de la marche. Waouh, ça c'est bien ça. Hein, je suis sûr qu'il y en a qui vont commencer. C'est comme Michel quand il lit un roman. J'ai jamais compris Michel pour ça, mais c'est son truc. Quand il lit un roman policier, il commence par la fin. Et après, il reprend le roman. Pour les psaumes démontés, je suis pas sûr qu'il commence pas par le psaume 132 en se disant « je commence par la fin pour voir ce qu'il y a comme récompense ». Mais c'est bien, parce que Dieu est aussi un Dieu de fidélité pour ceux qui marchent avec lui. Quelles sont les récompenses de cette marche? Pour les Juifs qui partaient en pèlerinage, c'était d'arriver à Jérusalem, c'était de pouvoir faire des sacrifices pour le pardon des péchés, c'est pouvoir se rapprocher, apercevoir la tente, le temple, etc. Nous, c'est d'abord prendre conscience, et j'ai entendu cela dans une prière tout à l'heure, de l'alliance que nous avons avec Dieu. Prendre conscience de cette alliance. Je suis lié à lui, et lui est lié à moi par Jésus-Christ. Waouh ! Ça, c'est une récompense de cette marche de la foi, du croyant. La deuxième, c'est la communion avec Dieu et entre nous. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer de temps en temps, quand ils sont de bonne humeur et disponibles, ensemble dans la maison du Seigneur. C'est une version corrigée. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, parce que Dieu est là pour les unir. Moi, je me réjouis à chaque fois que nous sommes ensemble parce qu'il y a un esprit au milieu de nous qui est un esprit non seulement de sainteté, mais aussi de communion fraternelle. Et puis, ça se termine mal. Parce que le dernier psaume, le psaume 134, évoque le fait que la récompense de la marche, c'est le service. Avoir le privilège de pouvoir servir Dieu. Alors là, le délégué CGT de l'Église apostolique de Kévin s'inscrit en faux en disant travailler comme récompense, c'est quand même pas l'idéal. Nous sommes pour une bénédiction gratuite, où nous sommes obligés de rien. Parce que c'est une fausse conception du service. Nous avons la joie, dans cette récompense de la marche, de pouvoir servir Dieu. Ceux qui ont joué de la guitare, ceux qui ont chanté, ceux qui ont élevé leur voix ce matin dans la prière, ceux simplement qui ont chanté et élevé leur voix dans la louange et l'adoration, vous avez vécu ce temps de récompense de la marche qui est de servir Dieu. Alors peut-être faut-il encore aller plus loin. Quel est l'appel que Dieu m'adresse pour que je sois à son service? Je vous laisse, pour ceux qui veulent, faire ce petit calendrier de l'Avent pendant 15 jours, un psaume par jour. C'est jouable, Léna? Ouais. Tu penses? Ouais. Mais elle est nouvelle, elle commence sa marche, elle est tout feu, tout flamme. Mais est-ce que les autres vont pouvoir se dire un psaume par jour en avant Noël? C'est possible, je ne sais pas. Vous pouvez prendre cela pour conduire votre lecture et votre méditation, ça peut être aidant. Alors, le psaume 121, c'est un psaume qui fait suite à « J'habite au mauvais endroit, je veux que ça change, et puis, je vais me séparer parce que différent de ce monde, je vais vivre autrement. » Oui, maintenant, c'est avec, au verset 1 et 2 du psaume 121, cette parole « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Et là, il n'y a pas les ponctuations françaises dans le texte hébraïque. Dans « D'où me viendra le secours ?» ce n'est pas une affirmation. En fait, c'est une question. D'où me viendra le secours ? Parce que dans les stratégies militaires de ces temps-là, c'est ceux qui dévalaient les collines et les montagnes qui remportaient souvent les combats. Et quand nous sommes dans les difficultés, quand nous commençons notre voyage, où est mon secours ? Eh bien, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'était un psaume qui était chanté au moment du départ, en vue du voyage. Déjà, le pèlerin a ses regards fixés sur le lointain, espérant bientôt voir les montagnes qui entouraient Jérusalem, mais ne cherchant pas son salut dans ce qui est en hauteur de ce monde. Or, bien souvent, nous cherchons, par rapport aux difficultés que nous rencontrons en premier lieu, à voir comment ce monde peut m'aider, comment il peut répondre à mes questionnements, à mes peurs, à mes craintes. Et il y a des besoins, il est naturel que nous recherchions, que ce sont des soins médicaux ou autres. Mais est-ce qu'il n'y a pas, en termes spirituels, des hauteurs qui sont plus élevées et vers lesquelles nous devrions apprendre à élever nos regards, à aller vers? Ce ne sont pas des collines qui peuvent offrir une aide en cas de réel besoin, notamment spirituel. Et puis, il faut savoir que ce psaume de David répond à une époque où c'était sur les hauteurs des collines et des montagnes qu'on construisait les hôtels, alors pas les Formule 1, les hôtels pour les faux dieux, les hôtels qui étaient pour adorer Baal, Astarté et autres. C'est sur ces hauteurs-là qu'on construisait ces hôtels. Est-ce que c'est de ces hauteurs-là qu'on cherche du secours? Alors bien sûr, on me dit non, moi Astarté et puis Baal, non. Hier, nous avons été au marché de Noël de Kevin. Malheureusement, cette année, il n'y a pas la présence du stand de l'église. Mais on a été surpris avec Francine. Pour autant, il y a de la présence, il y a une présence spirituelle. Allez, par curiosité, il y a une vraie présence spirituelle. Il y a un stand qui vend des poupées vaudou. Si, je ne plaisante pas. Marché de Noël, un stand vend des poupées vaudou. Il y en a une trentaine, une quarantaine. Alors, je ne sais pas s'il y a le mode d'emploi avec, mais il y a l'étiquette « poupée vaudou ». Ce monde cherche le secours dans les hauteurs, chez les faux dieux. Alors, l'origine du secours pour nous, elle est véritablement dans le Dieu de l'Alliance. D'ailleurs, le nom de Dieu qui est mentionné dans ce verset 1 et 2, c'est Yahvé, Jéhovah, c'est-à-dire celui qui se révèle au buisson ardent, je suis celui qui est. Notre secours, il est dans celui qui est. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans notre marche avec un début de marche qui fonde son élan dans ce Dieu de l'Alliance? Certainement, on s'attend en vain aux collines et à la multitude des montagnes. Certainement, c'est en l'Éternel notre Dieu qu'est la délivrance d'Israël. Prophète Jérémie, 3:23. Ce n'est pas les collines et les montagnes, dit Jérémie. Et pourtant, à son époque, Israël était battu, emprisonné, déporté. Et il dit, mais ce n'est pas dans les collines, ce n'est pas même dans le roseau blessant de l'Égypte que nous voulons, dans lequel nous voulons mettre notre espérance. Qu'est notre espérance? C'est en l'Éternel. Et quand il dit l'Éternel, notre Dieu, c'est Jéhovah, celui qui est le Dieu de notre alliance. Versets 3 et 4, « Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Eh bien, vous savez quoi? Le Dieu d'Israël, c'est notre Dieu. Et il ne sommeille pas. Moi, quand j'étais dans les années 80, veilleur de nuit dans un centre de réinsertion sociale, dans le bureau d'accueil qui mesurait 4 mètres carrés, il y avait un bas-flanc que je descendais, et à partir d'une heure et demie, 2 heures du matin, je faisais un petit roupillon jusqu'à 5 heures et demie. Moi, je dormais. Il pouvait se passer plein de choses, mais je dormais. Est-ce que Dieu dort? Vous rappelez ce combat entre Élie et les prophètes de Baal? Et puis, il tourne autour de l'autel avec un taureau, etc. Et il a dit, mais demandez à votre dieu Baal de faire descendre le feu du ciel. Et il tourne pendant des heures et des heures et des heures. Au point que Élie, pas très respectueux, je dois vous l'accorder, dit au prophète de Baal, mais criez plus fort, priez plus fort. Il est peut-être aux toilettes. C'est le texte, hein. Il se couvre les pieds. Il est occupé, il est aux toilettes. Ben oui. Et puis lui, il construit un autel, un autre autel, pas le même. Il met le bois, le taureau, des pierres. Et puis là, il dit verser de l'eau. Une deuxième fois, une troisième fois. Et là, il prie Dieu. Et le feu descend du ciel. Il ne sommeille ni ne dort. Dans quelle situation es-tu aujourd'hui? Est-ce que tu as besoin de l'intervention de ton Dieu? Peut-être que tu ne lui as pas demandé d'intervenir. C'est possible. Moi, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois d'être interpellé par l'Esprit Saint parce que j'avais essayé de trouver des solutions. Et puis, au bout d'un certain temps, comme ça ne fonctionnait pas, tout à coup, c'est pas moi, je vais être assez humble pour le coup là-dessus, c'est le Saint-Esprit qui me dit, mais alors, et en parlant de la Trinité, et nous, on pourrait faire quelque chose? Il ne sommeille pas, ton Dieu. Il ne dort pas. Dans ce psaume, un des verbes ou un des mots qui revient tout le temps, c'est « il te garde ». Être gardé par Dieu. Est-ce que tu penses que Dieu te garde? Est-ce qu'il est à côté de toi? Alors, verset 5 et verset 6, pouvoir rentrer dans cette espérance que Dieu est le Dieu de notre secours, c'est aussi un des mots qui revient souvent dans ce psaume, « il est là pour me secourir ». Je me rappelle qu'une fois, on est arrivé au Jura avec Francine et puis les enfants, et on est tombé sur une location qui donnait sur la rue et il n'y avait pas de fenêtre. Et au bout, moi, j'étais tellement fatigué de la route, et puis je me réjouissais tellement de passer ces vacances, j'ai dit, moi, je ne reste pas là. Puis Francine voyait mon dépit, ma colère, mon énervement, et puis sur le toit de la voiture, il y avait un vélo, parce que je prenais toujours mon vélo avec moi. Et j'ai dit à Francine, bah, c'est simple, hein, tu gardes la voiture, les enfants, moi je prends le vélo, je retourne en Bretagne. Et j'étais prêt à le faire, hein, tellement en colère. Puis à un moment donné, on a quand même demandé au Seigneur s'il pouvait nous aider. Et il nous a aidés. Il a été notre secours, il nous a trouvé des solutions. Est-ce que dans certaines situations, on oublie d'être sollicitant du secours de Dieu. Et l'Éternel est celui qui te garde, il est ton ombre à ta main droite. En 1781, début 1800, il y a un auteur allemand qui a écrit un ouvrage, il n'a pas écrit beaucoup, mais il est connu surtout pour cela. C'est un ouvrage qui raconte l'histoire de Peter Schlemihl, c'est pas facile à dire, qui a vendu contre de l'argent, qui a vendu son âme pour obtenir de la part du diable une bourse qui s'appelle Fortunatus. Vous savez, c'était une bourse magique. Cette bourse-là, elle restait pleine en toute occasion. C'est-à-dire, il sortait de l'argent, ça se remplissait, il sortait de l'argent. Et donc, il était heureux avec ça. C'était pas contre son âme, c'était contre son ombre. Et donc, du jour où il a fait le marché, il n'avait plus d'ombre. Moi, j'aime beaucoup cette histoire-là, parce que cette histoire-là, eh bien, Peter Schlemihl, à un moment donné, il s'est rendu compte que ne plus avoir son ombre avec soi, c'était problématique. Les gens qui l'entouraient, quand ils le croisaient, ils ont vu ça, ils ont dit « Ouh, c'est bizarre !» Donc, ils l'ont évité, il n'avait plus de relation avec les autres. Et puis, il s'est rendu compte qu'ayant perdu ou donné son ombre au diable, eh bien, ça le mettait en porte-à-faux avec tous ceux qui l'entouraient. Alors, il est retourné voir le diable en lui disant, eh bien, rends-moi mon ombre en échange de mon âme. Mais le jeune homme a refusé de donner son âme, et puis il a décidé de se sortir de cette affaire malheureuse, et il a jeté cette bourse, Fortunatus, pour trouver pour lui, alors il est dit, un voyage expiatoire. J'aime beaucoup ce récit-là. L'Éternel sera ton ombre à ta main droite. Et vous savez, il y a beaucoup d'hommes et de femmes dans ce monde. Vous les regardez, l'ombre de Dieu n'est pas sur leur vie. Ils ont perdu cette ombre-là. Mais à ceux qui marchent et qui vivent cette réalité-là, l'ombre de Dieu est à ta main droite, c'est-à-dire ta main la plus forte. L'ombre de Dieu t'accompagne. Eh bien, cela dit à quel point la présence de Dieu est attachée à ceux qui lui appartiennent. J'ai essayé, quand j'étais enfant, je me disais, de jouer comme ça, je disais, tiens, je vais essayer de me séparer de mon ombre. Je me rappelle de cet épisode-là, je vais avoir 5-6 ans, pas plus. Je me dis, tiens, je vais essayer de voir si on peut se séparer de son ombre. J'ai essayé, j'ai couru, j'ai tourné, je me suis caché. Alors, c'est vrai que quand j'étais dans le noir, je ne la voyais plus. Mais dès que je ressortais, elle était là à nouveau. Vous savez quoi ? La fidélité de Dieu fait que l'ombre de Dieu est toujours attachée à votre vie. L'Éternel est celui qui te garde. Il est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Dans le pays, quand les Juifs partaient Jérusalem, pays chaud, eh bien, le plus grand danger, c'était la chaleur. Nos amis et nos sœurs africaines savent ce que c'est. Ici, elles pensent qu'il ne fait pas vraiment chaud. Même en plein été. Hein. Non, mais même dans les situations les plus chaudes, les plus difficiles, l'Éternel me garde. Alors, l'ombre de Dieu est sur moi. Ce psaume dit voilà, que mon secours vient de l'Éternel. Il te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Est-ce que tu as cette foi-là, que tu es pèlerin, engagé dans cette marche avec Dieu, et que ton départ, comme ton arrivée, et l'arrivée, sauf si c'est le Seigneur qui revient avant, mais il y a de fortes chances, ou en tout cas les possibilités sont présentes que nous devions partir avant, eh bien si c'était le cas, même ce départ-là se trouve en Christ. Alors je n'ai aucune crainte. Merci Seigneur pour ta parole, pour ce psaume de pèlerinage. Parce que nous sommes engagés dans cette marche et nous voulons, Seigneur, véritablement, non seulement commencer le voyage, mais l'achever en toi. Ne pas nous arrêter, ne pas nous laisser égarer en cours de route sur des chemins de traverse. Nous voulons marcher en toi et pour toi. Garde-nous, Seigneur. Fais que ta parole soit pour nous véritablement une lampe sur notre chemin, qu'elle nous conduise dans ce qui est bon, agréable et parfait. Nous sommes pèlerins, mais nous savons que tu es cette ombre à notre main droite. Nous savons, comme le Christ l'a dit, qu'il sera avec nous tous les jours. Amen. Alors Seigneur, nous voulons continuer à marcher en ta présence. Amen.